Edmond Harrecourt, le centenaire. Le verbe est de modeste, mais le verbe est acceptable. Vers l'île de la montagne et 4 heures d'automobile au hasard de chemin, on est bien préparé à le mettre là, et je l'avoue, quand bien le mois lui m'a permis de retourner à l'air libre, pour récupérer mes poumons et rincer ma mémoire, je ne parle aux hôtels citadins qui me rappellent tout ce que je viens d'oublier et qui banalisent l'univers. Je ne parle aux maisons recommandées, aux maîtres d'hôtel en uniforme, aux salles à manger internationales, aux sites étiquetés, aux enthousiasmes numérotés. Cet amour en commun, dont vous poursuivez les paysages, ressemble à la prostitution dont vous agrémentez les villes. J'en ai horreur, plus que du boulevard, qu'ils parodient, qu'ils exagèrent. Je m'en vais frustre, seul, à la fortune du vent, conduisant moi-même mon auto. Et quand le site me plaît, je m'arrête et me dévisons. Je l'aime pour mon compte, à mon lieu, sans avis préalable, ni présence importune. Vous n'avez pas idée du nombre de beautés que la nature tient en réserve pour ce véritable amant à l'insu des guides et des touristes. Avec le café, l'autre me proposa son eau de vie qu'il déclarait admirable. Ah, merci, je ne bois pas d'alcool. Il éclata de rire. Oh, vous croyez que ça me fait du mal, vous? Oh, je sais bien, dans votre Paris, on prétend ça, mais ce n'est pas ici qu'il faut dire pour dire des bourdes pareilles. Mais je ne peux pas vous répondre. Et comme je ne répondais pas, il reprit. Mais l'alcool, il y a de l'hôtel pour conserver un chrétien. Parlez à la femme. Tous les deux se veulent dire. Et le bar ajouta. Aussi vrai que je vous parle, nous avons ici un gaillard de 104 ans. Son fils vous le dira. Et là-bas, il lui pousse encore le menton. C'est l'école qui lui fait ça. La belle, qui ne prend rien d'autre depuis une pièce de 20 années. Mais qui en va savoir, vous pouvez le croire. Parlez les femmes. Monsieur, il en prend sa part. Elle fait l'aise, quoi. Et vous devriez voir ça. Je ne peux pas vous dire, mais vous ne regretterez pas. Foi le contribuable. Et je peux bien arranger l'affaire si vous avez le temps. Avec l'auto, il faudra 5 minutes. J'objectais que les centenaires sont pas extrêmement rares. Oh, cet acabit, vous l'avez souci de voir les guerres. C'est maintenant où son fils va le voir. Il est rentré, point, je vous le dis, il est voyage. Me déranger une famille, je crains d'être indiscret. Dehors, indiscret. Et nous fait plaisir, au contraire. Parlez aux femmes. Monsieur qui est flatté, est fier, M. Nicolas, quand on rend visite à son vieux. Et le couple échangeait des regards mystérieux. Le budget était bien simple. Fils, c'est votre café, très bien. L'autre s'évada et vint en effet après une courte absence. Un homme l'accompagnait, petit bourgeois, tout habillé de brun, sévère et incolore, sans âge, mais plus que lui, à face maigre, avec des yeux morts, perdus au milieu de deux troubles sérieux. Voilà, fit le bergiste. Petit Nicolas est content de vous conduire. Je lui dis que vous êtes un savant de Paris, de la parfaite façon. N'est-ce pas, monsieur Nicolas, vous êtes bien aisé qu'on aille avec vous voir votre père. Le petit homme me salua en signe d'acquiescement et je formulais de vagues excuses pour la discrétion. Et il n'y en a aucune, monsieur. Vous avez l'air honorable, sérieux. Mon père ne devrait pas recevoir des farceurs. Je ne poserai pas cet ennui. Mais puisque vous êtes un savant, vous serez bienvenu. Le style ni le ton n'étaient pas ceux d'un campagnard et les gestes pas davantage. L'homme avait plutôt l'air d'un curé de faubourg ou d'un pasteur modeste et sa parole était quelque peu sentencieuse. Il ajouta, « Si vous voulez bien, monsieur, nous partirons, car c'est l'heure, et je n'aimerais pas faire attendre mon père. » Nous partîmes, et notre lieu, sans autre invitation, était monté dans la voiture. Droit devant vous et à gauche, jusqu'en vue du cimetière, la maison est contre le mur du cimetière. Oui, tout contre le mur, riposta l'aubergiste, qui décidément était gai. Et comme ça, la route sera quasiment faite, quand il faudra qu'il change de domicile. N'est-ce pas, monsieur Nicolas? Le petit bourgeois ne parle pas goûter la plaisanterie et pas davantage s'en moquer. Il tourna vers notre rieur, l'invincible visage des gens auxquels échappaient les intentions comiques. J'étais un peu gêné. Je voulais passer un mot plus convenable. Monsieur, votre père ne trouve pas que ce voisinage est attristant? Pas du tout, monsieur. La mort n'existe pas. Mon père sait mieux que moi. Il avait posé cette affirmation d'une voix claire et qui ne prévoyait pas de réplique. Avec une lenteur d'automate, il inspecta le ciel d'un coup d'œil circulaire et reprit. La mort est un préjugé, comme vous savez peut-être, une croyance que les gens ont prise peu à peu, à force d'en entendre parler, et qui s'est répandu par habitude. On a bien du mal, monsieur, à retirer cette idée-là aux hommes. Il faudra du temps, de la patience, bien du progrès, pour qu'on en arrive à comprendre que la mort n'est pas, n'existe pas. L'aubergiste, en clignant de paupières, me signifiait des confidences. Ah, ça c'est drôle, je vous l'avais promis, mais attendez la suite. Nous arrivons, le grand mur du cimetière s'allongeait vers la gauche, et quand nous l'eûmes dépassé, on me fit signe d'arrêter la voiture. C'est ici. Un clos rectangulaire entouré de murailles s'ouvrait par une grille en fer. Je fus étonné de voir que M. Nicolas tirait de sa poche une clé,
Le vieillard était donc enfermé. Et en face de nous, une maisonnette basse, sans étage, sévèrement construite en pierre de taille, avait un air bizarre de pavillon ou de chapelle. Tous les volets en étaient clos. En arrière, à droite et à gauche, on apercevait, par-dessus la crête du mur, les fils les ifs du cimetière auxquels la maison s'adossait. En avant, un terrain-jardin tout garni de fleurs et bien soigné se découpait par petits carrés avec des allées proprettes, mais si étroites que deux personnes n'auraient pas pu y marcher de front. « Venez, dit l'aubergiste, il n'y a pas dans tout le pays, regardez, un jardin mieux entretenu. Oh, monsieur Nicolas, soit son père. Mais c'est que mon père, monsieur, est tout pour moi. Il est tout. Il m'a fait ce que je suis. J'étais son fils unique et il avait 40 ans lorsque je vins au monde. » De là, il n'a plus qu'un seul but dans la vie, me préparer une existence heureuse. Il m'a doloté, choyé et donné de l'éducation. Il a travaillé pour moi et ses petites rentes que j'ai sont le fruit de son travail. Il me répétait souvent quand il était plus jeune, « C'est pour toi, mon fils !» Et il a pris de la peine afin que j'aie le plaisir. Alors, vous comprenez, dans ces conditions-là, je ne suis pas marié pour être tout à fait à lui. Ce qu'il a fait pour moi, je ferai pour lui. Maintenant qu'il ne doit plus peiner, il se repose et c'est bien son tour. Moi, je viens, c'est bien juste, mais n'est-ce pas, monsieur? Lorsque nous fûmes au seuil du pavillon, monsieur Nicolas prit une autre clé dans sa poche. Le vieillard était donc véritablement enfermé. Or, au fait, il avait peut-être une double clé. Mais quoi? Vivait-il donc dans cette nuit? L'antichambre exiguë donnait accès sur une salle assez vaste et complètement obscure. Trois minces filets de clarté filtraient à travers des volets clos. En entrant, M. Nicolas se découvrit. « Mon père, je vous amène une visite !» Puis il alla ouvrir, l'une après l'autre, les trois fenêtres de la chambre vide. Tout en faisant jouer les crochets et les espagnolettes, M. Nicolas continuait. « Ce monsieur que je vous amène est un savant de Paris qui passe en promenade. » et qui désire vous voir. Je cherchais vainement le centenaire, et je découvrais dans la chambre qu'une table ronde, deux chaises, un banc de pierre qui s'allongeait perpendiculairement au mur, un poêle en fonte, une échelle de bibliothèque et des rayons chargés de livres qui montaient jusqu'à la voûte. Je remarquai aussi un violon posé sur la table. Ah, monsieur, votre père fait de la musique. Non, moi je le fais. Lui, il l'aime. J'avais risqué cette question par vague politesse, Enfin, le combler, une minute, pensant que M. Nicolas ne remarquait point l'absence de son père, mais il me prit par le coude et me conduisit vers le banc de pierre en me disant « Ben le voici !» Alors, devant moi, au chevet du banc et dans son épaisseur, je vis sous la glace d'un cadre la face d'un mort. Ce que j'avais pris pour un banc était un sarcophage plat, percé d'une lucarne. Et du cadavre qui gisait là-dedans, on apercevait par ce trou que la face cireuse, sinistrement immobile, au fond d'un bain d'ombre liquide. Il est dans l'alcool, dit l'aubergiste, et voilà 22 ans passés. Monsieur Nicolas me prit à part et m'entraîna dans un coin où, à voix basse, rapide, vous excuserez mon père si sa barbe n'est pas faite. J'avais rasé à la suite de ce que les gens appellent un décès. Mais sa barbe repousse. Je ne veux pas l'ennuyer maintenant pour cette bagatelle. Des poils drus, en effet, hérissaient le visage du mort, long d'un centimètre et couleur de poussière. Oui, monsieur. Voilà 22 ans que mon père habite ici. Il avait 81 quand je lui ai bâti cette petite maison de retraite. J'ai cru bien faire en consacrant à cela une part de son avoir. Il ne partageait pas complètement mon avis, mais parce que, vous savez, il voulait que tout soit pour moi, et rien que pour moi. Mais bien ici, tranquille. Et je viens tous les jours passer quelques heures avec lui. Je lui lis régulièrement les journaux, ce qui m'avait intéressé, des livres qu'il en ouvre, comme vous voyez. Il a toujours adoré la lecture, mais ce qu'il préfère encore, c'est la musique. Je commence toujours par la musique. Vous vous permettez? Il prit le violon sur la table et se mit à l'accorder. Regardez-le pendant que je joue. Vous serez étonné de sa figure et le plaisir que les beaux passages lui transforment véritablement. Regardez. Monsieur Nicolas préludait par une sonate grave avec un talent médiocre. Je contemplais le masque du défunt, inerte et lugubre dans son bain de demi-ténèbres, et il me semblait que les notes pleurardes du salon retombaient de la voûte humide en pluie d'angoisse. La chambre s'emplissait de malaise. Cette musique n'en finissait pas. Comment dirais-je, mes vêtements, peu à peu, s'imprégnaient d'une atmosphère visqueuse, folle. Je sentais ma peau sangliée, comme devoir plonger avec mes regards dans le sirop cadavéreux. Et tout à coup, le violoniste lança son archet et attaqua une séguédille ensoleillée. « C'est maintenant !» s'écria-t-il. « Regardez ses mines. Il va rire !» Et il riait lui-même. Et cette gaieté macabre fut bien longue à subir. Enfin, le dernier pizzicato s'éteignit et j'en profitai. Bon, monsieur, je crains d'abuser et je vous remercie d'avoir bien voulu m'admettre dans votre intimité. Il était radieux. Ah, et vous avez vu, la mort n'existe pas. Je vous suis fort reconnaissant. Mais pas du tout, monsieur. Mon père était ravi de vous recevoir. S'il peut vous être agréable, que je vous ramène en voiture. Non, non, non. Je vais lui lire son journal. Il l'attend. Au plaisir, monsieur. Je crus bien faire en saluant le mort avec cérémonie. Et ce geste plut à Nicolas. Il nous reconduisit jusqu'à la grille, entre deux haies de fleurs tremblantes, qui sentaient bon la vie. Et derrière nous, il donna un tour de clé et s'en retourna. Ah, fit l'aubergiste, je vous le disais, c'est vrai que l'alcool conserve.